Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes, je crois, le 14 juillet, jour de la fête nationale de la France. Bonne fête aux Français et plutôt, disons, bonne fête à la France. Même si nous avons perdu le Nord, nous n'avons plus la France que nous connaissions. Cette douce France. Bon. Vous écoutez Flash sur le monde d'Élise Bock pour Radio Silence. Alors, c'est vrai que l'actualité brûlante dans le monde, quand on dit le monde, c'est surtout aux États-Unis et pas seulement. Hein, c'est un documentaire qui sort sur le trafic d'enfants, trafic mondial. Un film de Mel Gibson qui nous avait déjà fait l'honneur en tant que chrétien de la Passion du Christ. C'est un réalisateur atypique qui revendique son indépendance par rapport à Hollywood, dont on dit qu'il serait 100 fois, 1000 fois plus toxique que ce que nous pouvons imaginer. Alors justement, pourquoi? Parce que justement, Hollywood, il y a une histoire d'enfants, de pédophilie, d'enfants abusés, de pratiques de sorcellerie autour du crime des bébés, des nouveau-nés. Bon, enfin, il y a toutes les horreurs possibles qui sont dites, mais pour une fois, là, on a un documentaire, c'est quelque chose donc d'avéré sur le trafic des enfants. C'est du mensonge en plein sordide. Hein. Un témoin a dit qu'un enfant se vendait au marché noir entre 50 000 et 80 000 euros. C'est le prix d'un enfant que vous prenez, que vous. Déjà, tout ça, c'est au noir, hein, parce que des enfants disparaissent comme cela. Ils sont pas fichés, ils sont fichés d'une part ou alors ils sont fichés et puis ils disparaissent et puis on s'en fout. Il y a le trafic organisé surtout en faveur de nos, hein, voyez, notre élite bien paradante. Quand je dis l'élite, je pense à l'élite mondiale, hein, à ces gens qui font la promotion du nouveau monde, d'un seul monde, enfin d'un monde unique qui serait dirigé par eux. Donc qui bénéficient de tous les passe-droits, y compris donc d'acheter des enfants au noir. Donc ces enfants-là, qu'est-ce qui se passe pour eux? C'est qu'ils sont utilisés soit esclaves sexuels. Un esclavage sexuel, je ne comprends pas. Comment on peut, un adulte peut s'accoupler avec un enfant? Ça me dépasse. Donc ils les détruisent, forcément. Et puis, après ça, lorsqu'ils ont fini d'esclavagiser tout ça, ou comment je vais dire, de convertir ces enfants en tout ce que vous voyez aujourd'hui, les enfants qui se revendiquent d'être des LGBT, incroyable. Quand ils ont fini, c'est le trafic d'organes. Pour ceux qui n'ont pas de chance, on finit par les tuer. Ou alors, c'est des pratiques de sorcellerie où il y a des sacrifices de tout et de rien. On en parle, mais c'est difficile de comprendre. Oui, voilà, de comprendre. C'est très difficile de comprendre cela qu'un être humain adulte, pour la célébrité ou pour les déviances sexuelles en soient arrivées à ça. C'est-à-dire que on est moins que des bêtes, parce que les bêtes ne font pas cela. Et on sait plus ce que c'est. On sait plus ce que c'est quand on dit du satanisme. Je ne sais pas si lorsqu'on a dit ça, on a tout dit, mais c'est un raccourci en fait, c'est un raccourci. On est dépassé, ça dépasse l'entendement. D'autant que j'ai vu une émission, enfin une émission, c'est des petits trucs sur YouTube, où un médecin dit que la plupart des enfants qui voient, qu'il reçoit en consultation justement, parce qu'avant de changer de sexe, il faut bien qu'on vous demande pourquoi vous le faites, et c'est surtout les ados. La plupart des ados, ce sont des enfants qui ont eu eu une expérience sexuelle douloureuse. Alors, soit dans le cadre de l'inceste, soit dans le cadre des amitiés comme ça, des enfants qui ont été des filles, surtout pour les filles, qui ont été violées à l'école, qui sont restées sous silence et qui se disent, bah, si j'avais été un garçon, j'aurais pu mieux me défendre. Donc, elles veulent changer de sexe parce qu'elles se sentent faibles et que si elles étaient des garçons, c'est que derrière, en fait, pour faire court, il y a une souffrance psychologique, il y a du non-dit, il y a des violences qui font que après, soit le petit garçon se dit, bah, tant qu'à faire, j'ai déjà été comme j'ai été là, et bon, j'ai qu'à devenir une femme. Vous voyez, c'est plus profond que cela, et ça nous ramène toujours au trafic d'enfants, aux abus sur les enfants dont on ne parle pas, et lesquelles déviances arrivent. C'est un mode de recrutement finalement trop facile pour les LG, la communauté LGBT, dont d'ailleurs je m'insurge ici tout de suite, hein, parce que oui, la nouvelle, là je vais un peu, on va revenir au sujet, la nouvelle c'est que l'Amérique, notre très chère Amérique, la Cour suprême, où il y a deux juges qui sont issus de l'affirmative action, ont décidé qu'il fallait mettre fin à cette affirmative action qui était un peu, comment on va dire, une voie d'égalité pour favoriser l'accès des Noirs, qui étaient défavorisés, qui le sont toujours, à des grandes universités comme Harvard, comme d'autres, afin qu'eux aussi puissent accéder à ce qu'on appelle l'égalité républicaine, à l'ascension sociale. Alors eux, ils estiment, après en avoir bénéficié avec les autres juges, qu'il était temps de mettre fin à cette affirmative action. Mais sur la base de quoi? Sur la base du fait que il y a déjà beaucoup, vous voyez, des stars, hein, et beaucoup de noirs. Il y a une petite classe là, les sportifs, l'entertainment, qui sont devenus très, très, très riches et qui seraient capables aujourd'hui, eux, de tirer les autres noirs pour les sortir justement de ces zones grises, sombres de la République et de l'exclusion. Oui, sauf que lorsqu'on a dit cela, c'est du chacun pour soi. On sait très bien qu'aujourd'hui, les gens réussissent, c'est pour eux-mêmes. Et si vous allez plus loin, on va aller plus loin dans l'analyse parce qu'on va aussi y trouver la question de l'immigration et de la place du noir aujourd'hui dans le monde, aux États-Unis. Donc, cette affirmative action qu'on arrête comme ça brutalement. C'est si triste, c'est triste parce que les Noirs sont toujours victimes d'inégalités devant la loi. Vous savez, Hunter Biden, il peut se droguer comme il veut, mais si c'est un Noir, il va en prison. R. Kelly, qui était un grand musicien, on les prend, ces gens-là, dont on dit qu'ils sont riches, les stars. Alors, allons-y dans la musique, il y a, oui, dans le sport d'ailleurs. R. Kelly, qui est un grand musicien vraiment talentueux, il abuse aussi des enfants comme tout le monde dans ce milieu-là. Et tout d'un coup, on se souvient de lui, on le met en prison pour une histoire où il aurait abusé d'une petite fille. Là, c'est déjà mieux parce qu'elle a, je crois, 14 ou 16 ans. Ce n'est pas les enfants de 8 ans. Hein. On le met en prison. Mais en réalité, pourquoi on le met en prison? C'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il se faisait duper. Michael Jackson a eu le même problème par la maison Sony et toutes les maisons qui le produisaient de disques, dont lui ne voyait pas vraiment l'argent arriver. Il entendait des sommes énormes et quand il a commencé à vouloir vraiment trop parler, revendiquer, eh bien, on s'est souvenu. Ça vous rappelait l'affaire Trump. On s'est souvenu qu'il avait une relation avec une jeune fille. Eux qui se souviennent de cela, ils sont pris dans le réseau de trafic d'enfants au niveau international. Ils le pratiquent, ils le savent. Alors, on le met en prison pour cela. Il a une prison, là, je ne sais pas, 30 ans ou à vivre, vous savez. Voilà les Noirs qu'on promeut. Et après, qu'on casse. En fait, ils ne sont pas promus. Il y a une sorte de contrat qui les lie réduit au silence, qui les lie à une forme d'esclavage. Voilà, un nouvel esclavage, on les voit libres comme ça, succès et tout, on fait beaucoup de promos, mais en fait, eux, ils travaillent pour les autres. Et ça a été la même chose pour Kobe Bryant, qui est mort, un basketteur. C'est pas Kobe Bryant, je sais plus le nom là. Mais Kobe, il est mort comme ça, trafiqué, son hélico a crashé, parce que lui aussi avait des révélations, il voulait faire des révélations. J'ai oublié lesquelles. Et il y a un troisième rappeur là qui est mort ces jours-ci, c'est pareil, Michael Jackson, c'est pareil. C'est-à-dire que ils vous font signer des contrats qui sont léonins, parce que eux, ils profitent de tout, et puis vous, vous avez comme ça, presque rien, et c'est que dalle, quand vous voulez parler, on vous exécute, c'est ça le mot, et on vous demande en même temps de tirer les blacks de la misère. Ça, ce n'est pas la fonction d'un artiste, de tirer les blacks de la misère, c'est la fonction de l'État. Alors, si l'État reste dans cette logique où il se défausse sur ceux qui ont réussi pour qu'ils tirent leur communauté, c'est un peu compliqué, surtout que ces mêmes gens-là, il y a des limites. Vous allez voir, il y a des limites, ils peuvent tirer la communauté jusqu'à une certaine limite. Donc, on est là dans ce qu'on appelait la double contrainte pour les Noirs. À la fois, on leur dit « organisez-vous ». Et en même temps, on leur donne pas vraiment les moyens de s'organiser parce que c'est le débat qu'il y a sur Monsieur le candidat DeSantis, le gouverneur de la Floride, qui interdit qu'on enseigne l'histoire des Noirs en Amérique au nom d'une idéologie que lui il appelle, comment je vais dire, quelque chose qui va diviser. Les gens, enfin les Américains, parce que elle va culpabiliser une partie des Américains qui ne sont responsables à rien de l'esclavage, parce que eux, c'est les descendants, descendants, arrière, 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 arrière. C'est comme tout ce qu'on disait sur le nazisme, où il fallait que l'Allemagne demande pardon et que les jeunes Allemands se disaient, bah, nous, on va pas demander pardon parce qu'on y est pour rien. Bon, on tourne un peu là dans des choses, le clair-obscur toujours. On voit que le premier ministre danois a demandé pardon. Pour l'esclavage. Bon, il y en a quand même qui demandent pardon et puis d'autres qui estiment que ça va être, c'est pas nécessaire, on va revenir sur une histoire douloureuse qui va nous amener, nous amener, nous amener. Et pourtant, les Noirs auraient bien besoin de ce pardon en Amérique, par exemple. Les Noirs auraient bien besoin des réparations dans ce sens que on devrait leur donner aussi de la terre, parce que figurez-vous que lorsque les autres Européens sont arrivés, les Juifs et les autres qui fuyaient l'Europe en Amérique, plus tard on leur a donné des terres qu'ils exploitent, ce sont des grands fermiers, des agriculteurs, et les Noirs n'ont jamais eu ça. C'est pas ça qui fait peut-être leur grand handicap, mais si on veut mettre les choses en perspective, bon, on verra, venons un peu en France, venons pas en France, parce que là, on fait le tour du monde un peu, la question noire. En France, avec le problème de Nanterre qui a posé la question de l'immigration. Alors, intéressant, Nanterre, les banlieues, Bondy, avec notre cher Mbappé qui a parlé, vous voyez déjà, qui parle pour les immigrés? C'est pas Mbappé qui peut parler pour les immigrés, pardon. Vous voyez un peu déjà ce que je veux dire? C'est-à-dire que on a réservé une place aux immigrés, on a mis le plafond de verre, donc ils sont dans les banlieues, ils ont droit à ci, 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 ils peuvent aller dans le sport, ils peuvent aller dans la musique et tout, mais pas plus loin que cela, et le porte-parole, ça va être Mbappé. Vous voyez, donc quand on parle de l'affirmative action de l'autre côté, c'est justement par rapport à ça, c'est-à-dire que on n'a pas donné aux Noirs véritablement les moyens, et aux immigrés en France, de s'émanciper de leurs conditions. Peut-être Alors, j'ai trouvé, toujours dans mes lectures, hein, j'ai écouté Charles Gave, je ne sais pas si on l'appelle Gavé ou Gave, mais je ne vois pas d'accent. Donc, c'est quelqu'un d'intéressant d'habitude. Mais là, il avait une phrase qui peut vraiment nous aider ici. Et il a intitulé le système d'aujourd'hui, il a appelé l'ineptocratie. Il a dit que nous vivons dans une ineptocratie, c'est-à-dire un système caractérisé par les gens les moins capables de gouverner, qui se font élire par les gens les moins capables de se prendre, de gagner leur vie, en sorte que les gens productifs se font voler leur production pour entretenir ces gens incapables de quoi que ce soit. Donc, il faut que je relise, je redis ça parce que c'est très profond et ça fait partie des débats qu'on n'a plus en France. Donc les gens les moins capables de gouverner se font élire par les gens les moins capables de gagner leur vie, en sorte que ceux qui sont productifs se font voler leur production par ces gens-là qui sont incapables de quoi que ce soit. Bon. Quand on dit comme ça, je me suis dit oui, l'ineptocratie, oui, c'est pas mal, parce qu'on a déjà dit ici comment la société est gérée aujourd'hui par les médiocres qui passent par des sectes ou par le LGBT, vous savez, les nouveaux canaux de la méritocratie qui sont partout, sauf dans la République, enfin dans les statuts de la République. Et on s'est dit oui, ben, les gens les moins capables de gouverner sont élus, sont facilement élus par les gens les moins capables de gagner leur vie. À ce niveau-là, déjà, c'est très joli, mais il y a un problème. Les gens les moins capables de gouverner, ce sont les démagogues, bien sûr, ça on connaît, qui se font élire par les gens les moins capables de gagner leur vie. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de phrase. Les gens les moins capables de gagner leur vie, ça nous ramène à l'affirmative action. Pourquoi il n'y a pas une catégorie de gens qui seraient plus capables de gagner leur vie que les autres. C'est justement parce que moi, j'avais vu ce problème-là. Effectivement, il y a des gens qui sont les moins capables de gagner leur vie. Ce n'est pas qu'ils sont les moins capables de gagner leur vie. Ils sont mis en situation d'être incapables de gagner leur vie ou moins capables de gagner leur vie. Et ils sont mis dans cette situation-là. Parce qu'ils n'ont pas les codes de la République, ils ne comprennent pas très bien les procédures. Ils sont parqués quelque part, comme on avait parqué voilà, dans les camps de concentration. Encore que dans les camps de concentration, certains ont bien vite compris qu'ils pouvaient faire de l'usure et gagner de l'argent, travailler les ménages. Parce que dans les camps de concentration, il n'y avait pas que la petite classe, il y avait aussi la classe des gens, des financiers. Et des. Les gens aujourd'hui, les immigrés ou les noirs, ils sont les moins capables de gagner leur vie, ou plutôt ils sont mis dans cette situation-là parce qu'il y a des barrières qui sont invisibles. Bon Dieu, comme je vous dis, le quartier où on vous fixe, Mbappé, il vient parler et il dit, il est venu ici au Cameroun, on va en parler, il dit qu'il a il fait du social, il encadre les jeunes, je ne sais pas quoi, dans le sport. Voilà, déjà une voie de garage. Et vous restez toujours dans le quartier. Mbappé ne peut pas vous sortir du quartier. C'est évident. Peut-être il peut vous sortir du quartier par le sport. On est toujours dans les voyez, les canalisations. Ces trajectoires-là qui vous amènent vers des portes de sortie bien fléchies. Et après, vous avez tous ceux qui seront pas. Tout le monde ne sera pas sportif, tout le monde ne sera pas musicien en banlieue. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Les études vont pas aller très loin parce qu'il y a tout un ensemble de. Je vais dire un parcours d'orientation confus, un parcours de sélection qui dit pas son nom. De toute façon, dans ces zones de quartier, vous ne pouvez pas atteindre l'excellence scolaire. Ça, c'est clair, tel que la République l'a institutionnalisé sans le dire. Alors, moi, j'avais créé l'association La Voie Lactée dans une banlieue à Villefontaine, justement pour essayer de dépasser ces cadres-là, d'ouvrir l'esprit des enfants pour leur dire que c'est possible. parce que la République a organisé ainsi, ainsi et ainsi, qu'il y a un marché de l'école qui est ainsi, 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 qu'on avait des thèmes, la justice, la santé, etc., etc., qui permettaient quand même à l'enfant de commencer à se projeter un peu plus loin, à la fois dans les débats, pas de façon café du commerce, mais c'est des actions qui étaient classées politiques de la ville, qui devaient être poursuivies. Qui devait être poursuivi en tirant ses enfants vraiment pour les sortir des quartiers. Or, on les sort pas. On les sort pas, pardon. On les sort pas du quartier. On les maintient dans le quartier. On leur demande de s'en sortir. Alors vous allez me dire, oui, ben c'est ça le problème justement. Les Noirs attendent toujours qu'on fasse tout pour eux. Mais c'est trop facile de dire ça. Pourquoi? Bon, à la fois, d'accord. Je vais concéder le fait qu'il y a une âme noire qui est dans la passivité, qui attend que le blanc fasse pour lui. Ça, je vais le concéder et on le verra avec le cas Mbappé, là tout à l'heure, tout de suite, là, tout de suite, là. Mais il y a une autre partie qui concerne aussi la classe supérieure aujourd'hui, qui fait qu'elle aussi, quand Charles Gave ajoute que ce sont. On confisque la production pour la donner à ceux qui sont les moins productifs. Donc, ça veut dire à la classe supérieure, la noblesse d'État, et puis les classes inférieures. Hein? Entre-temps, c'est la classe moyenne qui paye et la classe des entrepreneurs. Mais ce qu'il oublie donc de dire là-dedans, c'est que ceux d'en haut aussi sont entretenus. Si on considère que ceux d'en bas sont assistés, c'est drôle, le sont d'autant plus parce que ils tirent trop d'argent dans l'État par rapport déjà à ce qu'ils donnent. Ils tirent trop d'argent. Et si vous avez cumulé les mandats, normalement, la retraite devait s'appliquer au dernier mandat, pas à la somme des mandats effectués, puisque c'est le même parcours qui se poursuit. Mais ça, c'est de l'assistanat. Comment on peut faire pour réduire le train de vie de tous ces sénateurs? De tous ces députés, de tout ce gouvernement, de l'État français qui est excessif, qui est excessif. Donc on peut dire que c'est les immigrés qui tirent beaucoup, mais les immigrés tirent quoi? Le RSA? Quoi? Des avantages sociaux? Quoi? C'est rien du tout. Mais ça les énerve parce qu'ils disent, enfin ça énerve la classe moyenne, parce que c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de la classe productive. Ben, la classe moyenne, c'est quelque chose de très vaste, hein? De très vaste, ça va depuis les enseignants. Moi, je ne sais pas si les médecins font partie de la classe moyenne, je ne crois pas trop. Aux indépendants et aux entreprises, ceux qui produisent de la richesse qu'on peut quantifier, là, qu'on peut quantifier parce que la richesse des politiques, on ne peut pas la quantifier. Celle des ouvriers, contrairement à ce qu'on croit, il y a eu beaucoup de démarches, des syndicats, elle est quantifiée. Il faut demander à la France insoumise parce qu'on ne peut pas aussi fonctionner sans classe d'ouvriers. Donc on arrive à ce déséquilibre du fonctionnement où c'est vrai, il faut réduire les impôts pour tous ceux qui sont productifs. Mais une fois qu'on les réduira, on aura le déficit de la sécurité sociale qui va bondir. On aura, bon, je ne parle même pas de l'allocation familiale qui va bondir. Mais ça, c'est ce qu'on disait déjà, que ceux qui cumulaient les mandats ne pouvaient pas aussi en même temps bénéficier encore des allocations familiales. Il faut des correctifs. Il faut des correctifs. Or, les correctifs ne sont pas là. Et du coup, on tape sur les plus petits parce que ceux d'en haut, vous ne pouvez pas taper dessus. En fait, la société aujourd'hui, on est revenu à l'ancien style, hein, c'est-à-dire qu'on a la noblesse. Les aristocrates, c'est l'État. On a les bourgeois qui produisent l'argent, c'est donc tout ce qu'on appelle la classe moyenne. Et puis on a les autres là qui souffrent, la galère et tout. On est revenu à cette situation là, on ne sait pas trop comment, donc on a régressé. Et au lieu de poser les vrais problèmes, comment on corrige tout cela, je ne sais pas si c'est à la marge ou au centre. Au centre, ce serait déjà de réduire le nombre de sénateurs. L'Amérique a 100 sénateurs. C'est clair, simple. La France, je sais plus combien, 300 et quelques, pour une population 4 fois inférieure. Oui, c'est des choses qui sont bizarres, qui sont bizarres, et on ne les corrige pas. On augmente de façon pléthorique le personnel politique qui bouffe, 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 se gave, se gave, se gave. C'est l'occasion, Monsieur Gave. Et on tape sur les immigrés. Bon, affirmative action dans l'eau. On avait fait quelque chose un peu pour aider les Noirs en France. Bah, ça peut pas non plus donner parce que si les porte-paroles, ce sont les Mbappé, pardon. Alors, que devient la classe intellectuelle en tant que telle, que ce soit aux États-Unis ou en France, elle est tue. Que deviennent les vrais débats? Parce que j'ai vu, oh, j'ai oublié le sociologue que j'ai vu qui s'est fâché parce que M. Macron a dit qu'il a semblé, avec les émeutes de Nanterre, découvrir la France et dire qu'il n'y avait pas d'outils, enfin, faire un peu comme s'il n'y a jamais eu de recherche sociale. Alors ce sociologue s'est énervé quand même en disant, mais ça fait depuis des années que l'État paye des chercheurs pour leur dire quel est l'état de la société, quels sont les correctifs à apporter. Et ils font la sourde oreille et après ils disent bah ils n'ont pas les éléments d'appréciation de la situation, tout simplement parce qu'ils font rien. Donc voilà le type même de démagogue qui est élu. Mais Monsieur Macron aussi, pour revenir à ce que Monsieur Charles Gave dit, quand il dit que ce sont des démagogues qui se font élire par les gens les moins capables de gagner leur vie, Monsieur Macron, pardon, il a été élu par qui? Par justement la classe productive. La classe productive qui a élu Monsieur Macron. Alors, du coup, on est là dans une sorte de contradiction aussi de la classe productive qui se plaint des impôts, qui elle aussi succombe à la démagogie. Alors on se demande qu'est-ce que c'est que cette société en fait où tout le monde vote. Je dis la classe moyenne. Bon, les insoumis ont été votés par la classe inférieure. La classe moyenne vote Monsieur Macron. La classe inférieure a voté les insoumis qui proposaient de baisser les impôts. On est aussi dans des contradictions qui sont incroyables en fait. Du coup, tout le monde est contre-productif, en fait. Tout le monde est contre-productif, les immigrés, parce qu'ils se prennent pas, ils s'organisent pas, les Noirs. Ils s'organisent pas. Je ne vais pas parler du cas des Arabes. Ils s'organisent pas. En Amérique, c'est pareil. Partout dans le monde, les Noirs sont incapables de s'organiser. Et là, on va finir par Mbappé. Mbappé, pour expliquer pourquoi les Noirs n'arrivent pas à s'organiser, Mbappé est venu au Cameroun. Très bien. Quand il arrive, oula, c'est ah, la star internationale et tout, on le reçoit à la télévision, la CRTV, Cameroun Radio Télévision, qui lui dit tout de suite, oh, ben, vous venez de New York pour Yaoundé, là, 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 là. Bon, il vient de New York. Vous voyez un peu? Il vient pas de Bondy, ni de Nanterre, ni de... Oh, il a pris l'avion de New York. Ça vous déporte déjà dans des trucs, vous comprenez plus rien parce qu'on joue aux références. Pourquoi New York? Parce que entre autres, ils sont allés chercher. Il y a eu, se sont associés. Mbappé s'est associé avec le fils de Yannick Noah pour venir créer ici. Voilà les horizons qu'on offre aux jeunes. Un complexe sportif qui va faire ci, qui va faire ça, un énième complexe sportif. Il y a des stades ici, notamment le dernier stade Olembé qui a été configuré sur la maquette pour être un multi... Comment on dit ça? Un complexe multisport. Il n'y a pas besoin d'amener la fondation Mbappé qui va dépenser, je sais pas, 75 milliards de francs CFA, un argent fou, pour écrire encore un complexe. Le complexe d'Olembe ne tourne pas parce que ça n'a jamais été fini. S'il le finissait déjà, ce serait très bien. Alors, Mbappé, il vient de New York et tout. Alors, il est arrivé ici pour vous dire comment les Noirs ne s'organisent pas. Le camp Noah s'oppose au camp Eto'o, pour des questions de sponsor publicitaire de l'équipe nationale du Cameroun. Alors, Noah, il vient avec son fils. Mbappé, footballeur, rencontre pas le président de la Fédération camerounaise de foot, qui est Eto'o. Il reste avec Noah et son clan là-bas. Et finalement, il va créer un centre multisportif. Hein. Il y aura le foot. Hein, voilà. Il ne rencontre pas le président de la foot qui enlevant les mots président, c'était quand même Eto'o. Samuel, c'est un joueur. C'était joueur comme lui, son grand frère. Et il va faire tout un show. Après, il ira voir le ministre. Après, il ira voir je ne sais pas qui. Et puis, il finira par le folklore traditionnel à Douala, où on va l'ériger en je ne sais pas quoi, en notable de quoi, de quoi, de quoi. Je veux dire, il est venu, il a fait sa tournée. Et il est reparti, mais c'était, on parlait que de ça ici au Cameroun. Pourquoi? Parce que le cinéaste Bekolo l'a très bien dit. On ne valorise le noir, ne valorise, et l'immigré d'ailleurs ne valorise que ce qui est déjà valorisé et, comment je vais dire, agréé par le blanc. Alors quand vous allez à l'étranger, Mbappé, c'est quelqu'un qui a dit qu'il ne venait pas jouer pour le Cameroun, mais voilà, il est reçu en grande pompe et tout, et tout, et tout. Ce même qui joue pour le Cameroun, on les ignore à la limite. Donc, tant que l'homme noir ne pourra pas valoriser, ils ne mettront pas en place eux-mêmes un système où ils peuvent se valoriser déjà entre eux sans attendre la valorisation et l'acceptation du blanc. Vous voyez les problèmes d'organisation que les noirs ont. Tant que le noir pourra créer ses lignes de mode sans passer par les Gucci et tous les autres, parce que c'est ce qu'ils portent. Tant que le noir ne pourra pas créer ses médicaments sans aller. Oui, il y a tout un plan de recherche qui n'est pas fait, qui est abandonné ici. Il ne recherche rien. On a déjà trouvé, bon, ça va. Vous vous souvenez l'épisode du Covid? Madagascar avait trouvé un remède naturel, une boisson. Mais même les pays africains n'ont pas accepté. L'OMS a dit tout de suite non, 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 parce que vous saviez trop bien, tout le Covid, on en parlera un jour. Hein. C'était tout un plan organisé dont l'OMS a la solde de tous ses financiers. Et non, 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 le vaccin, c'était pour se faire l'argent. Parce que finalement, les médecins qui disaient que ça ne servait à rien, ça apportait plus de problèmes qu'autre chose, étaient censurés. Et donc, on a vécu la parole des démagogues politiques qui reprenaient la parole des financiers à la recherche d'argent, quitte à faire la dépopulation, qui passait. Et voilà. Alors, tant que l'homme noir ne peut pas lui-même aussi s'organiser, ça c'est vrai, il y en a un peu marre. Il y en a un peu marre, moi je l'ai dit ici suffisamment, mais il a suffi que je le dise pour que M. Macron, le démagogue, estime qu'il va écrire une histoire de la décolonisation au Cameroun. J'y suis. Mbappé vient aussi au Cameroun, j'y suis. Ça se joue au Cameroun, j'y suis. Du New York, tout ça, c'est mes références, j'y suis. Mais c'est bien que les enfants suivent le modèle qu'on peut leur donner. C'est très bien. Alors, le cas donc de ces Noirs passif, assis à attendre que le blanc fasse pour lui, c'est un problème. Et c'est même d'autant plus un problème que le noir a tendance à recopier les travers du blanc et pas ce qui est positif. C'est-à-dire que le FMI, après qu'on ait crié quand même, vient de découvrir qu'il faut un contrat de performance avec les entreprises publiques auxquelles ils prêtent de l'argent. Alors, on établit, ils ont aujourd'hui communiquer, non, information d'investir au Cameroun. C'est un journal intéressant qui dit que bah, le FMI est en train de mettre en place des contrats avec ces entreprises publiques qui sont des gouffres financiers parce qu'on leur donne toujours de l'argent, autant de prêts, il n'y a pas de résultats, ils volent tout le fric, ils ne sont pas en prison, quelques-uns, parce qu'ils veulent être président, à la place du président. Et voilà comment peut-être on a une lueur parce que la dette qui s'enflamme, qui va très loin alors qu'on vole l'argent, il faut bien qu'il y ait des contrats de performance pour dire si les résultats ne sont pas là, stop. Ou prévoir des conditions et que le prêt doit être conditionné à ces résultats-là. Alors si le FMI fait ce pas-là, après que M. Macron nous ait proposé le pacte, un nouveau pacte financier, et que le FMI et la Banque mondiale se soient engagés à faire autrement, ça vous renseigne aussi la condition noire toujours sur place. C'est-à-dire que le noir ne s'auto-valorise pas, il suit le blanc, Et lui-même, il ne se donne pas un exemple et un modèle de gouvernance pour que peut-être que le blanc aussi puisse s'en inspirer, ou le monde puisse s'en inspirer. Bon, ami de Radio Silence, hein, voilà la question de l'immigration. Si on va en parler de façon quand même plus intellectuelle, pas seulement toute cette démagogie et puis cette victimisation, on sort de là et on fait la République, c'est le travail, la République. Et pour terminer, sur les nouvelles de l'Amérique, M. Trump vient de sortir quand même un argument de poids par rapport à ses accusations de rétention des documents à la présidentielle de son mandat. Et il dit, bah, d'après les Presidential Records Act, la loi qui régit le fonctionnement, la façon selon laquelle le président peut gérer les documents pendant... En fait, qu'il lui accorde toute autorité, il dit bah, les Presidential Act, justement, ne prévoient aucune clause pénale. C'est-à-dire que si le président, ils n'ont jamais pensé que le président ne peut pas remettre les dossiers, les documents classifiés ou que le président devait les remettre. Donc, il n'y a pas de clause pénale. Donc, du coup, la souveraineté du président semble s'appliquer, y compris après la présidence, d'autant plus qu'on peut faire des copies, hein, faut arrêter un peu. Alors du coup, ceux qui aujourd'hui les moins méritants, dont parle moins capables de gouverner, se disent, ah oui, ben finalement, hein, ils parlent plus de ça, ils commencent à dire, oui, mais pour le cas du 6 janvier, là, où là va appeler les gens, allez, hein, on va peut-être regarder, là. Bon, vous voyez, donc ce qui devient important aujourd'hui, c'est d'éliminer un opposant politique, et non de s'opposer à la guerre en Ukraine et en Russie qui tue les gens. Lors de la guerre du Vietnam, les Américains sont sortis et le monde entier est sorti pour dire d'arrêter de tuer les gens, d'arrêter la guerre. Voyez, l'humanité comptait encore. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est les magouilles politiques, c'est le LGBT, c'est toutes ces horreurs, la liberté sexuelle, qui passe, et le crime qui passe avant la protection de l'être humain, avant la protection de l'enfant, de la vie. C'est incroyable, cette régression que nous avons faite. Et on est carrément sorti du cadre de la République pour aller je ne sais pas où. Et puis, M. Gave qui dit, oui, ben, la France est devenue tellement désespérante que dans ses cours qu'il fait à la London School, Business School, il y a plus de Français qui y sont. Et dans vous savez, la nouvelle, l'intelligence artificielle, ChatGPT, c'est pas comment on appelle ce truc-là, il y a plus de Français qui sont à la Silicon Valley qu'autre chose. Ben, parce que les Français n'ont pas des débouchés en France, et ils vont donc, et alors qu'ils sont, il y a un esprit français qui est un esprit avant-gardiste. Alors la France n'est plus avant-gardiste, elle tue les gens, elle ne respecte pas la République, elle ne fait plus de débat intellectuel, elle a régressé et ses enfants vont chercher ailleurs, là où ils peuvent s'épanouir. Quand je parle des enfants, ce n'est pas les Noirs, hein, c'est même les Blancs. Bon, allez-y comprendre. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Lise Mock, Flash sur le monde. Je vous dis à bientôt.